écoutez Magic 9, Magic 9 sur le 100.9 FM.
Vous aimez le livre et la lecture? Vous êtes branché littérature? L'Aigle Édition met à votre disposition un éventail de livres de tout genre pour vous aider à affiner votre goût littéraire. Poésie, romans, nouvelles, essais. Les livres de l'Aigle Édition sont disponibles aux deux librairies La Pléiade, à Bois-Patate et à Pétionville, à Festival Arts et en son local au numéro 26 à Delma 8. L'Aigle Édition, littérature, culture, patrimoine.
Il me semble quelquefois que la ville se perde dans une course folle, charriant, déviant, intégrant, remodelant tout ce qu'elle peut. Je m'accroche, me perds si peu, depuis plus de 50 ans dans de petites nostalgies montées sur des souvenirs que j'ai de la peine à justifier. C'est un privilège d'être citadin de Port-au-Prince, du bas de la ville de préférence. Au commencement, je traînais dans des beaux quartiers, sifflotant, essayant de repérer la maison de tel ou tel président, sénateur, général, banquier, contrebandier. De ma posture de passant qui s'incruste, j'ai vu nombre de fêtes, d'enterrements et, suivant les mauvais jours, des départs en exil. S'il y a quelque chose qui m'est échappé, je peux gager que ce qui me reste de jours à vivre s'était produit la nuit et sans témoin. Toutes les propriétés ont des histoires plus ou moins secrètes. Moi, je les compile à l'aide de mes petites fiches avec l'ambition de mieux les organiser que celle de la cohorte du dictateur. J'y ai mis le temps, la passion et les moyens nécessaires. Ma vie n'était que cet espace à défricher, à construire, à embellir d'une maison en briques et en dentelle du bois construite en 1910, d'une ombre silencieuse qui se glisse de nuit entre deux haies de bougainvilliers, d'un fou, fils de bonne famille, envahissant avec ses histoires de père pervers et de mère alcoolique, d'un éternel candidat à la présidence et resquilleur qui lut le journal sur le balcon chaque matin en robe de chambre. La rue à Port-au-Prince est ma demeure et je ne suis jamais un passant qui s'y accroche accidentellement. Jean Eiffel Milsé, la musique des bulldozers, texte paru dans le collectif des mots et des rues, paru chez L'Aigle Édition en août 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Livre Neuf et une émission tout à fait spéciale, laquelle est inscrite, comme nous l'avons souligné dimanche dernier, dans le cadre de la série consacrée à Livre en folie. Donc, l'émission s'inscrit dans le cadre de la quinzaine du livre. Donc, je rappelle que Livre en folie, c'est pour les 26 et 27 mai prochains. Toute une série d'émissions spéciales consacrées à Marivieux Chauvel, l'invité d'honneur de la plus grande foire du livre en Haïti. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que nous vous retrouvons pour ce voyage à travers les mots et les pages. Toute l'équipe est bel et bien présente. La technique, comme toujours, l'infatigable Willems Joseph. La présentation signée Dulemson Petit Frère, Myrline Pierre et Weber Charles, à qui je dis bonjour, bonsoir les amis. Bonjour Weber Charles.
Bonsoir Dieu l'Hermisson, bonsoir Myrline Pierre, bonsoir à Willem et à tous les auditeurs de Magique 9.
Bonsoir Myrline Pierre.
Bonsoir Dieu l'Hermisson, petit frère, bonsoir Robert Charles, bonsoir Willem et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Livre 9.
Voilà, comme dimanche dernier, donc je rappelle que nous allons vous priver et des différentes rubriques de l'émission. Qu'il s'agit de la chronique de Robert Charles, Actu Livre, la chronique de Myrline Pierre et le livre de la semaine pour consacrer l'émission entièrement à l'invité du jour, puisque c'est Marie Vieux-Chauvet, l'invité d'honneur de Livre en Folie. Et c'est à elle que sont consacrées en fait les 4 ou 5 émissions de ce mois de mai. Rapidement, et un petit tour. Et la semaine, eh bien, elle a été dominée par la semaine du livre organisée chaque année par le Collège Saint-Louis de Bourdon, donc du 9 au 13 mai. Et une pléiade d'écrivains, artistes a défilé dans la cour de l'école à Bourdon, donc. Des écrivains, Gary Victor, Emily Prophète, Yannick Layens, Verly d'Abel, Franz Duval, des artistes également, et Jean d'Amérique, et Jean-Billy Mondésir. Eh bien, ils étaient tous là pour célébrer le livre, célébrer l'art avec les filles du collège. Donc, la 14e édition de cette foire a lieu du 9 au 13 mai. Puis la semaine du 26, en fait, toute la semaine du 11 au 27 mai, donc c'est la quinzaine du livre avec des expositions sur Marie Vieux-Chauvet à la Bibliothèque nationale, à la Fondation Connaissance et Liberté, la Focale. Une journée d'études sur Marie Vieux-Chauvet avec des universitaires haïtiens et étrangers, Alex Emra, Caroline Schred, Thomas Spears, Valérie Marin-Lamélé, Mehdi Chalmers, Jolemson Petit-Frère, et puis avec Evelyne Trouillot, Nadev Ménard, et puis notre ami Yannick Layens pour cette journée prévue le 25 mai à la Bibliothèque nationale. Donc voilà, et rapidement, un petit tour autour de la quinzaine du livre. Donc il y aura plein d'autres activités et à l'Institut français et à la Focale et dans d'autres espaces, les vendredis littéraires, tout ça. Donc Livre en Folie, et c'est ça. Toutes ces activités autour du livre. Aujourd'hui, à l'espace Livre 9, nous recevons le professeur Claude Pierre, donc, qui va faire avec nous une causerie autour de la figure de Marie Vieux-Chauvet. Donc, je rappelle que Claude Pierre, il est poète et linguiste. Il a fait des études au Canada, à l'Université Laval. Il a enseigné à l'École normale supérieure, au département des lettres et aussi à la faculté de linguistique appliquée, à la faculté des sciences humaines. Donc Claude Pierre qui a déjà publié plusieurs recueils de poèmes, dont Le Voyage inventé, qui a été réédité dernièrement et aux éditions Page et aux éditions Zemes et Pleine Plage. Donc voilà, nous avons le plaisir de recevoir le professeur, le poète et linguiste Claude Pierre, donc à qui nous disons bonjour, bonsoir et bienvenue Claude Pierre à l'espace Livre 9.
Bonsoir Myrline, bonsoir Jérison, bonsoir Wilbert, bonsoir Mitterrand et Willem Joseph. Alors je n'oublie personne cette fois-ci.
Oui.
Je crois qu'on va pouvoir passer un moment agréable. La voix n'est pas tout à fait au point, mais je crois qu'on va pouvoir s'en tirer et s'en sortir. Parce que Marie Vieux-Chauvet, et je pense que c'est un choix des plus judicieux pour cette année. Et ça tombe bien parce que son roman et son œuvre, c'est une œuvre de crise. Et nous sommes dans un pays de crise et ça peut montrer comment la littérature est en adéquation parfois avec une certaine réalité, sans être tout à fait la même chose.
Tout à fait. Donc la littérature est parfois ou même toujours en adéquation avec la réalité, j'ajoute avec la société même, puisque la littérature, c'est le reflet de ce qui se passe dans le social. Donc la littérature nous dit la saveur du monde, aime souvent répéter Yannick Lyens. Et Claude Pierre, tu l'as dit tout au début, le choix de Marie Vieux-Chauvet comme invité d'honneur, c'est un choix judicieux. Donc l'année 2016 amène son centenaire et en plus c'est un écrivain et incontournable, je dis, et dans la littérature haïtienne, et pour plusieurs raisons.
Pour plusieurs raisons, si on prend sur le plan anecdotique, c'est déjà pas mal, mais sur le plan de la technique et du récit, c'est formidable. Et si on veut maintenant aller plus à fond dans la création, eh bien, chez Marie Chauvet, il y a ces trois dimensions-là. L'aspect anecdotique, l'aspect historique, l'aspect idéologique, si vous me permettez. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de difficultés à faire la part des choses entre ce qu'on pourrait appeler, et en quelque sorte, et la fiction et le récit comme tel. Parce que parfois, il y a une espèce de chevauchement entre les deux, et ce chevauchement-là ne fait que accorder une tension au roman, à chaque roman de Marie Chauvet. Et je crois que parmi les romanciers et les romancières haïtiens, eh bien, c'est un nom à retenir pour ces raisons-là.
Oui, absolument. Et aujourd'hui, les auditeurs vont comprendre la tournure de l'émission, puisque Claude Pierre, on l'a présenté au début, est linguiste et sémioticien, si je mets un mot entre guillemets. Et on connaît l'amour de Claude Pierre pour la construction du récit, la narratologie. Et c'est dans ce sens-là que va ma question, à savoir, Marie Vieux-Chauvet est considérée, je reprends une phrase de Yannick Lyens, comme le premier romancier haïtien à avoir fait le monologue intérieur dans le récit, puisque son œuvre fait cette plongée dans, je dirais, dans le récit qui permet au personnage de laisser parler en lui toutes sortes de voix. Est-ce que, et Claude Pierre est de cet avis-là?
Est-ce que c'est la première? Je ne suis pas tout à fait sûr que c'est la première, mais c'est elle qui est allée.
Haïtienne, bien entendu. Il faut ajouter haïtienne derrière.
Même en haïtienne.
Haïtienne, oui.
C'est pas tous les romans.
Non, haïtienne.
Ah, d'accord. OK, à ce niveau-là, oui. Mais il y a une intensité chez Marie Chauvet, Marie Vieux-Chauvet. Il y a une intensité dans l'expression du sentiment. Et quand le personnage se manifeste, il n'y a pas seulement le personnage, il y a l'investissement du jeu. C'est-à-dire, quand j'ai dit du jeu, l'investissement du locuteur dans la parole, et cette parole prend du relief avec, maintenant, le récit. Et le récit va en même temps que les événements, et les événements vont créer, en quelque sorte, un sentiment d'instabilité, pour ne pas dire de déstabilisation, chez le lecteur qui se voit plongé en pleine idéologie.
Tout à fait. Donc, parlant du monologue intérieur, donc oui, tout à fait. Et Marie Vieux, c'est le premier romancier et à l'avoir fait, en ce sens que je parle toujours et du côté moderne de la chose. Donc, Marie Vieux, c'est une romancière, ou du moins c'est un écrivain et purement moderne par ce fait-là. Donc, l'introduction du monologue intérieur, donc le personnage qui parle à lui-même et en même temps qu'il se parle. Donc, le personnage, c'est une voix qui porte, et disons, et la charge et toute une charge sociale. Donc, c'est une conscience, en quelque sorte.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de pensif.
Oui, au fait et je voulais et surtout souligner donc, que Marie-Vieux Chauvet, en plus d'avoir fait ce travail, c'est aussi, et c'est là, et toute l'importance de la chose, c'est une femme. Et on sait, et là où les considérations qu'on avait au sujet des femmes, et des femmes écrivains dans la littérature haïtienne pendant toute la période du 19e et du début du 20e siècle. Donc Marie-Vieux Chauvet, après avoir fait ce travail...
Je ne vais pas me laisser entraîner dans cette voie. Parce que pour une simple et bonne raison, parce que parfois c'est la situation sociale qui va déterminer, et c'est pas le sexe qui va déterminer. Il y a beaucoup de choses qui vont déterminer la prise de position, le point de vue, le choix idéologique ou bien le choix politique ou le choix esthétique de l'écrivain. C'est vrai quelque part. Et vous avez raison, et dans un certain sens, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres écrivains femmes à agir de cette façon, mais je n'en vois pas une exception. Pour moi, ce n'est pas un fait d'exception, parce que Marie-Vieux Chauvet avait, et parce que j'en ai parlé à peut-être Madame... Madeleine Malbranche qui m'en a parlé, et c'est une personne qui lisait et beaucoup d'auteurs, qui avait des contacts avec des auteurs et haïtiens et certains étrangers. Auteurs étrangers, et puis qui ne se laissait pas embarrasser par l'aspect et par les limites et du sexe, de son sexe. Pour moi, c'était un écrivain qui avait quelque chose à dire et puis qui était déjà dans un certain monde, et à partir de ce monde-là, il était capable maintenant de, à partir de sa conscience de femme, d'homme, sa conscience de citoyen, de dire des choses importantes, et c'est ce qu'elle a fait.
Je n'aime pas les longs regards que Calédu continue de poser sur moi chaque fois que je le rencontre dans la rue. J'ai beau faire intervenir mon mépris, je n'arrive plus à conserver devant lui ce flegme aristocratique qui mettait entre nous la distance nécessaire et le forçait honteux à baisser les yeux. J'ai de plus en plus l'impression que je me jette en pensée dans les bras de Jean Luz comme sur un ersatz que j'ai choisi à dessein puissant et corrosif. Arriverai-je longtemps encore à me tromper ? Voilà un exemple d'une voix qui se tourne sur elle-même dans le roman et Amour de Marie-Vieux Chauvet, mais ce qui a attiré mon attention dans ce passage, c'est beaucoup plus le nom du personnage. Et puisqu'on voulait parler sur ce choix, puisque le nom dit quelque chose du caractère du personnage.
Oui, c'est un clin d'œil à la sémiotique, comme disait notre ami tout à l'heure.
C'est ce que, on pourrait en discuter à propos de Marie-Vieux Chauvet. Est-ce que effectivement ces noms-là ont été choisis en fonction du caractère du personnage, des personnages?
Ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le dire de façon nette et claire. Mais il faut reconnaître effectivement que ce nom-là n'a pas été choisi au hasard. Parce que Calédu, en créole, ça voulait dire tout simplement, eh bien, un homme qui l'a le maillon, l'imayon fort, l'imayon femme, et puis l'a le quito, c'est pas pour un bel en main, et bien on va mourir.
Et ceci dans tous les sens.
Oui, dans tous les sens.
Dans tous les sens. Hein. Dans tous les sens, dans le sens de l'érotisme, dans le sens
de la brutalité,
de la violence. Oui. Et dans le sens de la défense de ses propres intérêts de Calédu. Mm-hmm. Okay? Donc, pour moi, elle avait une conscience de ce qu'elle faisait comme écrivain qui allait au-delà de ce que je peux appeler les petites coïncidences. Ce n'était pas ce qu'on peut appeler les... comment vous dire ça, ce n'est pas ce qu'on, c'est pas fait à l'eau de rose, c'est pas du tout ça, parce que je me souviens immédiatement à partir de ce que Weber vient de lire, je me souviens d'un passage dans La Danse sur le volcan, à peu près, qui est à peu près la même chose, la même chose. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est capable de regarder, c'est un auteur qui est capable de regarder quelqu'un en face et qui est capable de peindre ce personnage-là de son vivant et dans le vif. C'est le mot, dans le vif. Alors, je crois qu'à ce moment-là, et un roman comme ça, pour... Bon, aujourd'hui, j'écoutais quelqu'un qui parlait de roman. Un roman ne peut pas changer le monde, mais un roman peut agir quand même sur un lecteur.
OK. Oui. Mmh. OK. Et si, par exemple, nous allons rester dans Amour, colère, folie, est-ce que ça a un sens pour toi et professeur? Amour, colère, folie. Si on essaie d'interpréter ce titre-là.
L'interprétation, du point de vue sémiotique, est risquée.
Mm-hmm.
Parce qu'il peut y avoir 5, 6, 7 interprétations, peut-être à l'infini.
C'est ce qui fait la beauté.
D'ailleurs, oui.
C'est l'essence même de
la chose. Mm-hmm. Mais je crois qu'on peut, et absolument, et retrouver. Moi, ce que j'ai fait de Amour, colère, folie dans un temps, j'avais fait une espèce de lecture emboîtée. J'avais commencé un morceau de Amour, et puis avant de finir, je suis passé à colère. Enfin, j'étais passé à folie. J'avais lu dans la première fois, et comme initié de cette trilogie-là, j'avais lu séparément, mais à un moment donné, j'avais essayé de trouver des...
Une formule pour essayer de les mettre ensemble.
Oui. Et puis je trouve que la personnalité est là et les personnages qui sont à l'intérieur de ces récits-là qui se manifestent ou qui s'expriment, eh bien, ces personnages-là sont, et je crois que l'un de vous l'a dit tout à l'heure, ces personnages-là sont en deçà d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a une espèce de psychanalyse qui se manifeste. Est-ce que c'est la psychanalyse de l'auteur? Est-ce que c'est la psychanalyse de l'écrivain? Est-ce que c'est la psychanalyse réelle du personnage? Je ne sais
ou
pas.
Ou est-ce que c'est la psychanalyse du texte? Parce est-ce que si, c'est... On fait, si on pense à l'interprétation
là,
du
là,
texte...
Là, je ne parlerai pas de psychanalyse, je parlerai de grammaire. Pour moi, c'est la grammaire du texte qui crée, qui développe cette psychanalyse. Et je suis très, très content.
Sangloter toute ma peine. Il faisait sombre autour de nous et le soir sentait la verveine. Le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Il faisait sombre autour de nous et le soir sentait la verveine. Mon cœur battait à triste coup, comprenant sa tendresse vaine. Le front caché sur toute ma peine. Tu me disais des mots très
Cécile McLaurin-Salvin qui chante Ida Faubert, un poème d'Ida Faubert, Le front caché sur tes genoux. J'ai sangloté toute ma peine pour faire référence aux femmes qui écrivent dans la littérature haïtienne, qui ont écrit, et celles qu'on a oubliées, Ida Faubert, Marie Vieux-Chauvet, qui sont deux grandes figures féminines de la littérature haïtienne avec presque les mêmes origines, je dirais. Une classe bourgeoise qui produit des écrivains, pour certaines, on va parler des écrivaines, pour certaines bourgeoises proches de la bourgeoisie, et pour d'autres beaucoup plus proches du peuple, comme Marie Vieux-Chauvet l'a été, que ce soit dans son roman « Fille d'Haïti », où elle a pris position à travers son personnage Lotus contre les oppressions de deux régimes politiques, ou que ce soit dans Et Les Rapaces, où elle parle de la misère, de la pauvreté des gens des bas quartiers. Claude Pierre, qui est notre invité, je voudrais te faire intervenir sur ce sujet-là, le choix ou encore l'angle choisi par Marie Vieux-Chauvet, à savoir se démarquer de sa classe sociale pour pouvoir explorer ou faire explorer et le lecteur ou au lecteur d'autres lieux.
Eh bien, cela veut dire qu'un écrivain n'est pas dans une tour d'ivoire. Et cet écrivain-là avait l'habitude de regarder et travailler ou bien d'observer. Et c'était Marie Chauvet, je ne sais pas, mais c'était un peu... Et Marie Vieux-Chauvet, c'était un peu une espèce de... Elle avait des rapports avec Thomas Le Chaux, d'après ce que j'ai appris, et puis avec Jean Brière, et qui était un peu son beau-frère, je crois qu'il était son beau-frère. Et Marie Chauvet était dans une mouvance, et elle n'est pas restée dans cette mouvance-là. Elle était bouillonnante, et elle était curieuse, elle était intense, elle était passionnée, et elle était passionnée de sa plume. Et elle avait écrit aussi, pour commencer, une petite pièce de théâtre.
Oui.
Alors, c'est vous dire qu'il y avait en elle plusieurs personnages. Donc, quand, par exemple, la dictature est arrivée et qu'elle en a eu conscience, qu'elle en a pris conscience, eh bien, elle a réagi de belle façon. Elle a commencé à écrire et puis elle écrivait déjà, mais toute sa colère s'est manifestée. Et elle a été au-delà des problèmes épidermiques.
Absolument.
Elle a été au-delà des problèmes de religion. Et elle a été au-delà... Elle a touché les problèmes idéologiques. Et sans que ce soit pour elle une espèce de... Ce n'était pas une galère. Non, c'est tout naturel. Ça passe dans l'écriture tout naturellement. Et la protestation n'est pas une protestation artificielle ou bien collée au texte, mais la protestation fait partie de Marie Chauvette et fait partie du texte. Je vais vous lire un petit extrait, tout petit. Vous allez voir comment elle avait une vision et incisive de sa réalité. Elle a été, le personnage en question a été cherché deux fugitifs. Et puis, voilà ce qu'elle a écrit. L'endroit, c'était à la Saline, à cette époque-là. L'endroit était un immense bourbier, ça et là, de grosses mouches bourdonnantes butinaient des ordures. Des bébés au ventre proéminent, aux longs bras décharnés, pleuraient de faim. Les chaumières branlantes, à peine couvertes et juste assez grandes pour pouvoir y dormir, recroquevillées, s'enlisaient dans une eau stagnante et boueuse où rampaient de nombreux vers de terre. Ce fut dans une de ces masures que je découvris Samson et Gantier. Donc c'est pour vous dire que là, même si c'est au passé, l'aspect prend le dessus et vous avez maintenant un récit qui domine le texte et qui fait que nous vivons un passé de 40, 50, 60 ans comme si c'était aujourd'hui, parce que rien n'a changé dans ce pays.
Donc, pour revenir un petit peu à la question de Robert Charles, qui est une très, très bonne question, donc... Et la question des femmes, le milieu d'où proviennent les femmes écrivains, donc c'est dans le début du XXe siècle, c'est surtout le milieu bourgeois. Donc Marie-Vieux Chauvet est issue de ce milieu et Ida Faubert, dont Weber a parlé tout à l'heure, vient du même milieu, donc fille de président qui avait Élisée Salomon, donc qui a vécu en France pendant un certain temps. Marie-Vieux Chauvet, aussi fille de sénateur de la République et d'une mère étrangère venant des îles Vierges, ou même Cléante Valsin, aussi une autre bourgeoise qui est fille d'une mère américaine. Une mère américaine. Et donc, à cette époque, et il paraît que la question de l'écrivain, était, paraît-il, réservée à ces genres de femmes-là.
Je n'y vois rien de surprenant pour les autres, parce que si vous regardez bien, à bien considérer, ces femmes-là venaient. Et en Haïti, jusque sous ma gloire, en 54, 55, on n'avait pas encore fait de recensement. Donc, il y avait au moins 85% d'analphabètes dans ce pays. Donc, les gens qui allaient à l'école, c'était des gens de classe aisée. Mais ce qui est surprenant avec Marie Chauvette, c'est qu'elle, elle a compris. Elle a fait le saut. Elle n'est pas restée accrochée à son milieu et à sa classe. Elle a compris qu'il y a autre chose à faire. Donc, d'où sa générosité, d'où aussi son insolence. Pour moi, ça marche ensemble. Il y a une sorte d'insolence chez elle, une sorte de générosité qui, ces deux qualités-là, ont développé chez elle. Oui, en tout cas, on décuplait les qualités d'écriture chez elle.
Et tout à fait. Donc, mais quoi qu'elle provienne de ces milieux-là, elles se sont surtout intéressées aux petites gens, à la mise, en fait, aux miséreux, les conditions difficiles des gens et du dans son cas, du bas peuple et, dire, pour Valsin, pour Valsin, oui, bon, on va pas rester là-dessus puisque c'est on parle surtout de Chauvet, mais dans leurs œuvres on voit que il y a ce même phénomène comme on en a vu avec Alboire, par exemple, qui s'intéressait et aux gens et du marché Salomon, le bas peuple, le gros
oui,
peuple.
Oui, ça, c'était chez Alboire, c'était un peu beaucoup plus un peu sentimental. C'était plus.
Il
métaphorique. Tandis que chez Marie Chauvette, Marie Vieux Chauvette, elle a, d'après ce que j'ai su par des anecdotes, elle a vraiment pris des risques. Elle a pris des risques réels. Donc, tandis que Carl Boir, et c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il a pris la part des petits, le parti pris des petites gens, mais à un moment donné, il se disait quand même bourgeois. Même s'il disait « horrible, je deviens bourgeois ». Mais il était bourgeois.
Petit duplex au Sacré-Cœur et le complexe du bonheur. Vendredi 13. Tout le confort à la maison, et pour garder son petit garçon, une portugaise. Pas grand chose de différent des autres femmes de 30 ans sur cette butte. Mis à part un petit détail, quand elle se rend à son travail, c'est pour aller faire la pute. Comme les filles de son espèce, elle prend ses quartiers de noblesse au fond des âges. Ses collègues sont en vérité de petites sœurs de charité, pas davantage. Les malheureux au cœur blessé, tous les amoureux délaissés, ceux qui débutent. Les paumés de la société, compagnons, la timidité, vont trouver l'amour chez les putes. Comme beaucoup de ses compagnes, elle est venue de sa campagne chercher fortune. Il y a des trésors plein la terre, mais elle assure qu'elle préfère ceux du bitume. Ne crois pas avoir son âme plus noire que celle des autres femmes que l'on culbute. Mais dans ce monde unisexuel, il y a autant d'hommes en vérité que de jeunes femmes qui font la pute.
Femme, avec la voix de Michel Sardou, donc vous comprenez très bien, puisqu'on parle de Marie Vieux-Chauvet, on parle de femme. Et Marie Vieux-Chauvet est aussi qui s'est surtout intéressée à la condition des femmes dans ses romans, d'autant plus que les femmes abondent son univers. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont présentes et les femmes, généralement, et joue le rôle de héroïne, et que ce soit avec Claire dans Amour, que ce soit avec Lotus.
Dans Les Rapaces aussi, avec Anne, qui est une bourgeoise qui s'intéresse beaucoup à cette famille qui a tout perdu, et puis Anne veut aider cette famille.
Oui, la famille d'Alcindor.
La famille d'Alcindor, merci.
Tout à fait. Donc, que ce soit avec Anne, comme tu l'as souligné, ou bien Lotus dans Fille d'Haïti, et dans La danse sur le volcan, et ce sont des femmes, ou bien avec Minette, voilà, Minette dans la danse sur le volcan, dans Fond des Nègres, tout ça. Donc, les femmes peuplent son univers. Et tu avais une question, Myrline, tout à l'heure au sujet de Anne. Hein? Anne, tu as dit qui, et paraît-il.
Oui, c'est Anne. Et tout à l'heure, j'ai remarqué que Anne a une ressemblance avec Marie Chauvette. C'est que Marie Chauvette, c'est une bourgeoise. Anne aussi, c'est une bourgeoise. Marie Chauvette s'intéresse au peuple. Anne aussi, dans le roman, s'intéresse au peuple. Est-ce que vous êtes là, professeur?
Je suis tout à fait d'accord avec cette lecture, mais si on pose bien la question, mais excusez-moi, avec la température et avec le climatiseur, ma voix ne fait pas, mais bon.
On peut éteindre.
On va prendre comme ça. Et il faut toujours tenir compte de deux choses quand on lit un roman, en général. Et vous l'avez bien lu dans ce sens-là. Il y a la manifestation verbale qui est la lecture de surface et il y a la lecture latente. Dans la lecture de surface, je crois que tu as raison et tu vas me donner raison, je pense. Et tu as tout à fait raison. Mais dans la lecture profonde, pour les structures profondes, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'on ne peut pas, de façon péremptoire, claire et nette, dire qui est vraiment Marie Chauvette. Ça, il faut toujours faire. C'est bien, oui, de faire la remarque, mais après, il faut toujours,
prendre une certaine distance.
Amuser, oui, il faut doser la remarque parce que le personnage n'est jamais tout à fait
l'auteur.
Même quand le personnage dit je, même quand c'est et c'est pour cette raison qu'au début, quand on a commencé l'émission, on a voulu parler de fiction et de récit parce que le récit est ce vœu naturel, réel et concret et littéral, tandis que
la fiction
est de niveau métaphorique et peut être lue de plusieurs manières.
Mais
je te donne quand même raison. Hein.
Et c'est le côté polysémique de la littérature, donc, du texte de fiction.
Parce qu'il y a des gens qui font cette erreur-là, beaucoup font cette erreur-là en lisant les romans, en voulant de façon rapide et associer l'auteur avec un personnage du récit ou bien regarder la vie. Ce n'est pas un procès verbal.
Ça existe dans l'autobiographie.
Même là, c'est encore plus large dans l'autobiographie. Mais là encore...
Philippe le Jeune l'a souligné dans le pacte autobiographique. Et même quand on est dans... C'est de la vie de l'auteur qu'il s'agit. Mais l'auteur, il se cache derrière un personnage, un narrateur.
Quand il avait vécu ça, il avait tel âge. Maintenant, il n'a plus l'âge. Mm-hmm. C'est un autre point de vue, une autre façon de voir, une autre dimension. Mais dans un sens, je suis tout à fait d'accord. Et j'en ai parlé une fois à Régine. Et elle disait que sa maman, c'est tel personnage, tout craché.
Bon, on pourrait même l'associer pour rester là. On pourrait même aller voir chez Lotus aussi, Weber Charles.
Voilà.
Donc, il y a cette ressemblance tellement.
Absolument.
Vous voyez,
absolument.
Lotus...
Dans le caractère, il faut dire que l'écrivain, lorsqu'il écrit, il écrit avec tout ce qu'il a vécu. Même en essayant de se cacher derrière
un narrateur.
Oui, bien sûr.
Enfin, il donne plus de choses sur soi-même, sur lui-même que, voilà. que sur ce qu'il
bien
essaie
sûr,
de
Bien sûr, c'est
nous
avec
présenter.
Des bouts de soi qu'on fait oui. les autres ou voilà. des personnages. C'est ça qui fait qu'il y a et toujours des ressemblances. toujours des ressemblances entre les personnages et les écrivains. Mais là encore, il faut se méfier puisqu'il y a Absolument. La part de la lecture aussi. Il ne s'agit pas uniquement de l'auteur. Moi, je suis non. contre la dictature de l'auteur, ah, à savoir oui, que oui. l'auteur est un dieu qui sait tout. Et le lecteur aussi est inventeur de mots, de monde.
Bien
il
sûr.
Lit et il a, et c'est ça l'interprétation.
D'ailleurs, dans le récit, l'auteur crée son propre récit.
Oui, bien
récit,
sûr.
D'ailleurs.
L'auteur et le lecteur également crée et surtout crée son récit. C'est ça qui permet, qui lui permet d'aborder le texte, d'entrer dans le texte. C'est la façon de deviner ou de se représenter les personnages voilà. que le lecteur finit et par comprendre. C'est ainsi qu'il finit par comprendre.
Si d'abord, un exemple en Haïti, n'a pas nique pour un Maurice Sixto, par exemple.
Oui.
Ou pour un Maurice Sixto, oui, c'est pas jamais Maurice Sixto, mais c'est jamais. Et Maurice Sixto toujours là. Mm-hmm. Ou c'est même bagaille là. C'est deux bagailles, parfois, ils vivent un petit bout comme ça. Un petit bout de morceau, et puis il est sémé sous lit, il est ouvert sous lit, et puis de là, maintenant, vous avez un personnage qui est à la fois un personnage de roman et un personnage de la vie, d'où cette difficulté de faire la
part des choses.
La part des choses entre
le réel et la fiction.
Et le réel du récit.
Donc, pour revenir un peu et à l'œuvre de Marie-Vieux, et Chauvet. Donc, c'est une œuvre de qualité. Donc, tout à fait. Que ce soit du point de vue de la structure.
Je ne vais pas vous faire pédant, vous êtes moi-même.
De l'œuvre.
Depuis au moins plusieurs années que je me suis compté trois écrivains et majeurs. Et dans la fin 20e siècle, là, je me suis dit.
Marie-Vieux, Chauvet.
Marie-Vieux, Chauvet et Jean-Claude Fiollet.
Ouais, bon.
Je me suis dit ça.
Bon, tout à fait. Donc, oui. Donc, pour revenir à l'œuvre, donc Amour, colère, folie est souvent considéré comme la pièce maîtresse.
Pour moi, c'est une symphonie et c'est plus qu'une symphonie. C'est une espèce de comment vous dire là. Et donnez-moi les mots, vous qui
de
êtes
concert,
dans les fugues, les histoires là. Et ça fait longtemps que j'ai pas entendu de fugue, mais c'est pas des fugues, c'est comme la toccata de Bach, quelque part. Parfois, c'est pour cette raison que j'avais fait cette expérience-là et je vous conseille de le faire, de ne pas terminer et
la lecture.
Texte, et puis d'aller au deuxième, et puis d'aller au troisième, et puis vous allez vous étonner de la richesse de cette création.
Donc, tu as, en fait, ta préférence. C'est Amour aussi, Amour, colère et folie.
Là, vous posez une question impossible. Moi, j'adore la danse sur le volcan. J'adore.
C'est un roman sur fond historique.
Sur fond historique. Et puis, moi, en général, je n'aime pas les romans sur fond historique. Mm-hmm. Et puis là.
Donc, ça permet de revivre la colonie de Saint-Domingue.
Le contraste, d'ailleurs, elle est bonne là-dedans. Dans ce livre-là, et comment qu'il s'appelle
Fille d'Haïti.
Fille d'Haïti, je vous conseille, je conseillerais, je demanderais à tout le monde de lire, de prendre du temps pour lire le chapitre 3. Là, sa rencontre avec le vieux monsieur.
Charles, le cordonnier.
Oui, ça, c'est de toute beauté.
Ce monsieur qui allait changer
avec les
aussi.
Enfants. Tout à l'heure, vous oui. aviez parlé de son rapport avec les filles, mais son rapport aussi avec les gens faibles.
Des pauvres.
Mais c'est pas faible dans le sens de faible de caractère.
De pauvre.
C'est
faible économique.
Les gens pauvres.
Oui. Donc Charles qui est entré dans sa vie, qui est venu.
Qui a changé sa vie.
Oui. Oui.
Avec sa Bible, s'il vous plaît.
Oui.
Qui lui a, je dirais, révélé son âme.
Oui. Et avec son métier de cordonnier, donc il a appris à nourrir. Oui.
C'est le chapitre 3 pour moi. C'est vraiment contrasté, c'est comme ça.
Quoique c'est
à côté de chez moi, dans une affreuse bicoque, d'ailleurs, elle disait quelque part que sa maison, c'était la plus belle,
oui,
tu disais ça. Mais là, à côté de chez moi, dans une affreuse bicoque qui s'emplit du bruit, de la poussière, de la rue, vie, mon meilleur ami.
Le vieux Charles, qui est comme un père.
Oui.
Oui. Donc, et Marie-Vieux Chauvet et son œuvre, donc c'est l'histoire, et c'est le social, c'est la musique aussi. Oui. Tout à l'heure, tu as fait la remarque, c'est la psychologie. Donc, regardez le profil des personnages qu'elle présente. Donc, c'est des personnages de différentes couches sociales, des bourgeois, des mulâtres, des noirs, et des pauvres, des écoliers. On en a vu dans Amour. Et tout ça.
Les gens ne savent pas lire, comment elle est dominée par ça, comment elle est intéressée par les gens qui ne savent pas lire. Et puis, et à partir des esclaves, elle voulait, et le personnage principal, Minette, voulait que tous les esclaves
sachent lire.
Oui,
oui. Surtout avec et ce petit monsieur qui venait donnait des cours.
Tu as lu.
Oui, qui donnait des cours à la maison et en cachette en plus.
C'est lui qui a fini muet.
Oui, en cachette en plus. Oui.
Si je n'avais pas mon âge, j'aurais pleuré. Fini muet.
Donc Marie, c'est incontournable.
Pour moi, c'est le temps maintenant de mettre tout ça à l'école avec de bons professeurs qui soient capables de réellement de tranquillement d'introduire des doses de lecture de ces romanciers haïtiens. Nous avons des romanciers et des romancières en Haïti extraordinaires. Je suis en train d'en faire lire à la faculté de linguistique pour ma dernière année, parce que ça, je crois que c'est ma dernière année, mais je vais faire lire et non seulement...
Après, ce sera la retraite.
Ah oui, oui, c'est la retraite maintenant. Il y a Franck, il y a... Marie-Vieux, il y a et Jean-Claude Fignolet.
Olivier.
C'est à petite dose. Ne faut pas. Pourquoi se presser avec les enfants, les jeunes? Il faut trouver les bonnes pages. On n'essaie pas de trouver les bonnes pages. On veut asseoir une brique. Non, il faut trouver les bonnes pages. Moi, maintenant, c'est ce que j'essaie de faire, de trouver les... Toutes les pages sont bonnes, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour des gens qui ne sont pas du tout initiés à la lecture, il faut trouver les bonnes pages. Et après, tu vas voir, comme pour Pénac, ils vont tout seuls aller dans le livre et ils vont vous dépasser.
Et ils vont lire comme ils veulent.
Commenter à leur manière.
Oui, comme tu l'as souligné tout à l'heure, donc lisez une partie d'Amour. Laissez puis
oui,
aller
donc, là.
Oui
aller
donc oui faites ce que Pénac et a souvent
oui,
prêché
souvent,
ce qu'on appelle les droits du grappillage qui est l'un des 10 droits imprescriptibles
lire,
du lecteur Mirine.
Prends le livre, passe ta main dessus.
Les 10 droits imprescriptibles du lecteur donc oui. Pénac, Daniel Pénac dans Comme un roman.
Oh, dans Comme un roman.
Oui.
J'avais fait ça à la faculté de linguistique, c'était de toute beauté, mais je n'avais pas encore cette expérience. Je voulais que tout le monde lise le livre, mais maintenant, après Pénac, j'ai dit, il faut commencer.
Par grappiller.
Ah oui.
Oui, donc voilà.
C'est comme ça qu'on lit vraiment.
Oui. Voilà, merci Claude Pierre.
C'est déjà fini.
Oui, puisque c'est pratiquement la fin.
C'est vraiment formidable.
Merci. Oui, donc il est 6h05, donc c'est pratiquement la fin de l'émission. Donc merci, professeur Claude.
Je n'ai pas le temps d'écouter parce que je n'ai pas écouté l'émission.
vous étiez présent. Donc,
merci en pile, Timon, moi j'aime ça.
Donc je vous remercie infiniment, et professeur Claude. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, le rendez-vous avec Marie-Vieux Chauvet, c'est pour les 26 et 27 mai, donc au parc historique de la Canne à Sucre. Donc, toute l'équipe était belle et bien présente, comme je l'ai souligné au début. pour l'émission, cette émission spéciale. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci à Claude, merci à Willems et qui a assuré les manœuvres techniques. Et merci à Myrline Pierre, à Weber Charles. Donc, le rendez-vous pour une émission du même genre, c'est dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, et pour la série, toujours la série sur Marie-Vieux Chauvet. Donc, je rappelle que cette émission est une émission proposée par la radio Magique 9 en partenariat avec l'association Legs et Littérature à l'aile. Donc, portez-vous bien, ne zappez surtout pas. Notre ami Richard est déjà là pour vous apporter les beaux parfums d'autrefois. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée avec Richard pour les parfums d'autrefois. Au revoir.
Vous aimez le livre et la lecture? Vous êtes branché littérature? Legs Éditions met à votre disposition un éventail de livres de tout genre pour vous aider à affiner votre goût littéraire. Poésie, roman, nouvelles, essais. Les livres de Legs Éditions sont disponibles aux deux librairies La Pléiade, à Bois-Patate et à Pétionville, à Festival Arts et en son local au numéro 26 à Delma 8. Legs Éditions, littérature, culture, patrimoine.
Depuis Port au
Port-au-Prince, Haïti, vous écoutez Magique 9, Magique 9 sur le 100.9 FM. Les